Bonsoir, bienvenue dans le 26e épisode de la troisième saison de Culture Sang et Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sang et or. Mais il n'y avait pas de match, pas de rencontre des Lensois ce week-end, donc pas de match à débriefer, ce qui nous donne bien l'occasion de vous proposer une émission spéciale arbitrage grâce à la présence de notre invité ce soir, invité que je vous présente dans un instant. Ces dernières semaines, l'arbitrage a encore fait débat sur les pelouses de Ligue 1 notamment, entre jugements sur le terrain ou décisions polémiques de la VAR. L'agacement et l'incompréhension a notamment touché le microcosme sang et or, provoquant la publication de cette fameuse vidéo de la part de la communication lensoise. Comment expliquer ou analyser ces décisions? Quelles solutions apporter? Gros dossier arbitrage ouvert dans Culture Sang et Or ce soir et avec vous et vos commentaires dans le chat. On va bien sûr jouer à la pause au quiz Culture Sang et Or et puis en deuxième partie d'émission, on fera un zoom plus personnel sur notre invité de ce soir, sa carrière d'arbitre pro en France, mais également à l'international, ses rapports et souvenirs autour du RC Lens. Focus tout à l'heure sur celui qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Et puis, on conclura ce rendez-vous par un débat autour de la sonorisation de l'arbitrage dans le foot. Est-ce la solution pour le retour d'une ambiance plus apaisée? On attend déjà vos avis. Pour m'accompagner, je vous présente donc le casting de ce 26e épisode. Quand il s'agit d'évoquer l'arbitrage, il a toujours un avis bien tranché. Sera-t-il plus clément, mais pas Turpin ce soir? Guillaume est avec nous. Salut Guillaume.
Bonsoir Valentin, bonsoir à tous les supporters lensois et bonsoir à Saïd Jimmy.
C'est un adepte du recul et de la nuance. Il en usera encore probablement quand il nous fera part de ses analyses ce soir. Antoine nous accompagne aussi. Salut Antoine.
Salut Valentin, salut à tous les supporters lensois.
Enfin, c'est un expert, c'est quand il est lancé, on ne l'arrête plus, analyse, quiz, débat, il mange à tous les vateliers, Greg Lallemand de la Voix du Nord sera notre troisième chroniqueur. Salut Greg.
Bonsoir à tous, très heureux de participer à cette soirée, notamment avec Monsieur Jimmy.
Et enfin, justement, vous en parlez, c'est un expert des comptes et on a hâte de découvrir son bilan calmement ce soir. Arbitre en Ligue 1, mais aussi international, il nous fait le plaisir d'être un peu notre VAR ce soir, qu'on ne va pas hésiter à consulter. Saïd Njimi est notre invité. Bonsoir Saïd.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Allez, on va démarrer l'émission. Réagissez dans les différents chats et posez vos questions à notre invité. On siffle la première mi-temps. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sang et Or sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous aussi sur notre site web culturesangetor.com pour y trouver plein d'articles sur le club. C'est sans cesse le sujet qui revient toujours comme une vague interminable dans le microcosme du football. Cela fait des années qu'il fait parler, parfois polémiquer. Malgré les changements à travers les années, les évolutions censées corriger les incompréhensions, rien n'y fait. L'arbitrage est régulièrement au cœur des débats foot, trop rarement pour les bonnes raisons. Main dans la surface, hors jeu, carton, mais aussi attitude sur le terrain, tout est critiqué. La VAR qui devait résorber les problèmes semble aujourd'hui les cristalliser un petit peu plus encore, si bien qu'aujourd'hui on n'y comprend plus grand-chose, que d'un jour à l'autre, une même situation peut avoir un jugement différent et générer frustration, agacement et parfois même haine et insulte envers ceux, au fond, qui restent de simples humains. Où en est l'arbitrage français aujourd'hui? Sommes-nous trop sévères envers les hommes et femmes en noir ou au contraire, est-ce mérité? Comment aujourd'hui penser les plaies à travers notamment les expériences vécues par le RC Lens? On vous pose les questions, Saïd Njimi, et on espère que vous y répondrez sans détour dans Culture Sang et Or. Et d'abord, première question avec vous, Saïd. Est-ce que ce constat que je viens de faire là, est-ce que vous le trouvez sévère ou réaliste?
C'est votre appréciation. Je pense que le fait que la vidéo soit arrivée sur nos terrains de foot est à la fois une bonne chose, puisqu'il ne faut pas... Il ne faut pas s'interdire l'évolution technologique. Maintenant, la difficulté, c'est que ce qui est interprété dans la surface de réparation, principalement pour les fautes de main, restera toujours interprétable. Et la vraie difficulté, par contre, c'est que cela pose un problème, puisque le grand public attend de la perfection. Puisque qui dit vidéo dit perfection. Or, comme je le disais à l'instant, il est très difficile d'obtenir de la perfection, alors même que les arbitres vidéo interprètent une situation dans la surface. Donc, on pourrait tous les cinq se retrouver derrière un match, regarder le ralenti avec attention, y compris à plusieurs reprises, qu'on ne serait pas forcément tous les cinq d'accord sur l'interprétation à donner. Bref, le football a décidé d'effacer la glorieuse incertitude du sport, de ne pas laisser l'opportunité à l'arbitrage de se tromper, qui permettait, il y a encore quelques temps, de créer une certaine forme d'émotion, y compris dans la difficulté. Et j'ai presque envie de dire que la philosophie du sport, c'est aussi l'injustice, quelque part. Ça permettait de garder ce contexte d'erreur permise à tout un chacun, y compris aux joueurs. Mais le football moderne, avec ses enjeux principalement financiers, a considéré légitime d'essayer d'effacer du mieux possible les erreurs d'arbitrage. Je pense qu'on y arrive dans beaucoup de cas, mais que les cas qui restent sont extrêmement difficiles à comprendre et génèrent paradoxalement beaucoup plus de frustration et d'incompréhension, et c'est là que je vous donnerai raison, sur les cas qui restent malheureusement à traiter et qui ne sont pas traités comme on le souhaiterait tous.
Antoine, tu es d'accord avec ce que je viens de dire, Saïd Njimi ?
Je trouve que la définition et l'audit du problème ne peut être que plus limpide et plus clair. Moi, je voulais rebondir et vous renvoyer la balle, Monsieur Njimi, sur justement, vous parliez d'interprétation et justement, je pense que ce grand débat qui nourrit toutes les rédactions, les radios et les bars au final en sortie de match devrait être centré sur en fait la définition de ce qu'est l'arbitrage, puisque on fait souvent la confusion entre ce qu'est un arbitrage et ce qu'est un jugement. Et je pense qu'il y a des sports, je pense notamment à la gymnastique, où notamment on voit des athlètes qui vont faire des pirouettes, quelque chose qui est très artistique et qui vont ensuite être jugés par un jury. Et là, on parle vraiment de juge. La note est claire. Alors, le barème ne l'est pas forcément, mais il y a une note qui est donnée a posteriori. Tandis que le football, c'est un sport dynamique, mouvant, fait bien sûr, comme vous l'avez dit, d'injustice et d'interprétation, et qui est du coup, a fortiori, nécessite un arbitrage qui suscite forcément des débats parce qu'il est subjectif. Et justement, est-ce que vous ne trouvez pas, vous, qu'on oublie trop, je pense, dans les débats, de remettre l'arbitre à sa place, c'est-à-dire que c'est un arbitre et non un juge?
Oui, on peut le dire comme ça. Vous avez raison de dire que l'instantanéité c'est la caractéristique même du foot, hein, comme d'autres sports. Mais moi, je le décrirais de manière encore plus simple, hein, c'est-à-dire je reviendrai sur mes propos là de tout à l'heure. La vidéo devait résoudre tous les problèmes. Elle a été présentée à tout un chacun comme le Graal
ou la comme solution miracle.
Exactement la solution miracle, la fin de l'histoire pour corriger toutes les difficultés. Il n'en est rien, et encore une fois, les quelques erreurs qu'il reste, parce qu'il faut quand même reconnaître que beaucoup d'erreurs sont corrigées grâce à la VAR. D'ailleurs, ça devient presque normal. Il en reste encore beaucoup, peut-être beaucoup trop aux yeux de certains, et celles-ci ne seront malheureusement jamais corrigées. Et aujourd'hui, il faut plutôt faire le constat qu'on est peut-être arrivé. Alors, on évoquera peut-être quelques solutions, j'en ai quelques-unes à vous proposer pour essayer de minimiser encore plus le nombre d'erreurs, mais je pense qu'il ne faut pas espérer de la vidéo qu'elle puisse corriger tous les sujets. Et on ajoute à ça un contexte de championnat qui est de plus en plus difficile pour toutes les raisons que l'on connaît, les enjeux, les places européennes, les 4 rétrogradations en fin de saison. Et évidemment, chaque sujet arbitral est prétexte à contestation toujours plus rugueuse chaque année qui passe.
Greg, je te donne la parole.
Ouais, moi je voulais. Alors c'est très intéressant comme prélude, et je voulais juste poser la question à Monsieur Njimi. Vous avez connu évidemment le football et l'arbitrage sans la vidéo. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, à la mi-temps d'un match, de vous jeter sur un écran télé pour vérifier la décision que vous aviez prise? Et auquel cas, est-ce que ça pouvait influencer ensuite votre arbitrage sur la deuxième période? Parce qu'on a parfois le sentiment, on avait parfois des fois le sentiment qu'il y avait des formes de compensation qui peuvent arriver. Alors, c'est peut-être de notre imaginaire, je ne parle pas spécifiquement de vous, mais voilà, est-ce que les arbitres avaient accès à des contrôles télévisuels à la mi-temps, et est-ce que vous, ça vous est arrivé simplement de dire je ne sais pas si je me suis trompé, et je vais regarder à la mi-temps si tel a été le cas?
Tout le monde se jetait sur son téléphone à la mi-temps. Ceux qui vous diront le contraire, peut-être que leur façon de faire était un peu différente, mais en tout cas, dans les discussions qu'on avait en stage, tout le monde se jetait sur son téléphone, et c'est bien normal, surtout quand vous êtes entouré par une nuée d'abeilles, pour utiliser un terme plus agréable s'agissant de l'arbitre que j'étais, plutôt que d'utiliser les mouches, vous aurez compris. qui vous raccompagnaient au vestiaire en vous disant que vous vous êtes trompé 85 fois pendant la première mi-temps et que c'était inadmissible. Donc évidemment, moi personnellement, en tout cas avec mes assistants, je regardais, beaucoup de mes collègues regardaient, pas pour faire de la compensation, parce que ça fait deux erreurs. Si vous en aviez constaté une en première mi-temps ou deux, il ne fallait surtout pas revenir sur le terrain pour en faire une troisième ou quatrième. Vous passiez encore plus pour ce que finalement vous êtes réellement à jouer à ce petit jeu-là. Mais c'était plutôt pour prendre en considération les contestations légitimes des joueurs et peut-être adoucir un petit peu sa posture ou être davantage dans la compréhension vis-à-vis de joueurs qui étaient peut-être un peu agacés. Et surtout, en tout cas, c'est ce que je faisais, revenir sur le terrain et aller voir ceux qui m'avaient contesté pour leur dire « oui, effectivement, je me suis trompé ». Alors, ça avait l'impact que ça pouvait avoir, ça ne calmait pas forcément les gens, mais il faut avouer à demi-pardonner. Moi, j'entretenais plutôt de bons rapports avec les joueurs, et quand vous leur parliez, quand vous leur expliquiez que malheureusement, vous étiez passé au travers, surtout sans avoir de vidéo, ça passait mieux que de faire le sourd ou de considérer que rien ne s'était passé.
Et juste le prolongement de ma question, c'est de savoir si vous êtes arrivé aussi de dire, en fait, la vidéo, ce serait super. Est-ce que à l'époque, vous étiez forcément pour? Est-ce que vous aviez un avis tranché? Est-ce que maintenant que vous la voyez à l'œuvre, est-ce que vous avez un peu nuancé, changé d'avis? Ou quelle a été, en fait, votre évolution en tant qu'arbitre dans la vision de la vidéo avant? C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez espéré? Et aujourd'hui, est-ce que parfois, vous la regrettez?
Alors là, j'ai envie de vous retourner la question, puisque vous êtes des personnes qui sont très, très, très au fait de l'actualité et de toutes les erreurs qui peuvent être commises. J'ai le sentiment personnel qu'il y en avait peut-être un petit peu plus à mon époque, mais je n'ai pas le sentiment que ça crée plus de polémiques qu'aujourd'hui. Et en réalité, si vous voulez, je me dis au final… Est-ce que véritablement ça a permis à des équipes d'être mieux classées ou pas? Je n'en sais rien. C'est probablement le cas. Je ne veux pas le remettre en cause. Mais j'ai le sentiment que notre football était plus enthousiaste, était moins sous sédatif en quelque sorte, d'une vidéo qui viendrait clore le chapitre 30 secondes, une minute après l'action de jeu. Je n'ai pas le sentiment qu'en fait ça s'est amélioré en termes de spectacle.
En tout cas, on en a eu des exemples cette saison de cette vidéo qui ne résout pas tout. On va prendre le plus marquant pour le RC Lens, c'est ce match à Brest en début d'année où le score final est de 1 but partout, mais où clairement le Racing Club de Lens est entaché de deux voire trois situations très litigieuses qui n'ont pas été corrigées par la VAR. On pense bien sûr à cette main qui permet l'ouverture du score du Stade Brestois notamment, peut-être un pénalty dans la surface ou encore un tacle par derrière. Est-ce que vous comprenez que ces supporters, que ces observateurs du football puissent peut-être être encore plus agacés, encore plus reprocher encore plus l'arbitrage parce qu'il y a cette vidéo-là et parce qu'on ne comprend pas justement comment c'est possible, avec la vidéo, de voir des erreurs aussi flagrantes?
Alors d'abord, la vivre avec la contestation, ça fait partie du métier. Arbitre, aujourd'hui, c'est un métier. Il ne s'agit pas seulement de se plaindre d'être critiqué, il s'agit aussi de comprendre pourquoi on l'a été. Et c'est vrai que ces trois phases de jeu, et principalement la faute de main grossière d'un joueur brestois qui se ramène le ballon pour ensuite procéder à la contre-attaque, c'est assez… Ça interroge.
Comment vous, de l'extérieur, en tant qu'ancien arbitre, vous arrivez à expliquer qu'on ne soit pas revenu sur cette action-là?
Mais c'est le paradoxe, c'est la difficulté de l'exercice, c'est qu'aucun d'entre nous, je pense, n'arrive à se l'expliquer. On n'arrive pas à comprendre tous les uns les autres comment est-ce que ça peut être possible. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte, si vous voulez, du taquet dans lequel on est, sur le côté humain, parfois un manque de communication entre les arbitres, ça peut arriver. Parfois, le fait de ne pas avoir eu le temps de visionner la vidéo avant que le jeu soit repris. Tout un tas de petites choses. Je ne crois pas, si vous voulez, qu'un arbitre ait pu voir cette situation et qu'il n'ait pas eu envie de dire les choses telles qu'elles sont à l'arbitre.
C'est que la VAR n'est pas remontée aussi loin dans l'action du but pour pouvoir voir cette main, c'est ça que vous dites?
J'aurais préféré, si vous voulez, qu'on ait des explications claires pour que là, on puisse plutôt débattre des solutions à apporter par rapport à une situation, plutôt que de rester dans le vague et de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé. La difficulté de l'arbitrage de demain, ça va être de faire preuve d'humilité totale et absolue, puisque la vidéo met à nu l'arbitrage. Il va falloir accepter d'être nu et de dire la vérité telle qu'elle est exactement, à la virgule près, pour que le grand public, les médias en particulier, puissent relayer l'information et que les choses s'apaisent. Si vous laissez, alors même que tout le monde l'a vu, si vous laissez les gens dans le vague sans leur donner d'explication, c'est peut-être ce qui agace encore plus. Ce n'est pas si grave, en fait, de dire on ne l'a pas vu, même avec un écran vidéo. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Et quand on sera arrivé à ce stade-là, d'une humilité chaque jour plus importante, peut-être qu'on arrivera à progresser davantage dans l'utilisation de la vidéo.
Guillaume, je te donne la parole, tu voulais réagir.
Oui, je voulais réagir et je vais revenir sur le préambule de M. Njimi, où on s'est un peu orienté tout de suite sur des erreurs qu'on corrige pas, et le résultat qui permet une interprétation, une vidéo, etc. Moi, je pense que ce qui, en tant que supporter, en tout cas, ce qui est le plus frustrant, c'est carrément le mode opératoire, en fait. C'est pas forcément qu'il y a une décision qui soit bonne ou mauvaise ou qui nous plaise pas en tant que supporter, mais c'est déjà le mode opératoire. À quel moment la VAR se saisit vraiment d'une occasion, enfin d'une situation de litige? On était parti sur un préambule qui était l'erreur manifeste, qui moi me paraissait plutôt sain. C'est-à-dire que on n'est pas là pour réarbitrer en temps tous les 5 minutes, réarbitrer les 5 minutes précédentes et du coup hacher un match et ne plus avoir une continuité dans un match. C'était l'erreur manifeste. Ensuite, effectivement, la vidéo, on a quand même un petit peu changé, on a commencé un peu à réarbitrer, etc. Et puis là, cette année, j'ai l'impression que par moment, c'était l'inverse. On a des arbitres, certains arbitres qui, on le sait, hein, ils sont, je vais pas le nommer, mais certains arbitres, ils ont pas envie d'être dérangés par la vidéo parce qu'ils s'estiment suffisamment forts pour ne pas en avoir besoin. Et du coup, si on fait le parallèle avec l'image de Brest-Lens, moi, je pense qu'aussi, il y a un moment, il y a eu beaucoup de plaintes sur le fait que c'était trop long. On réarbitre les matchs, c'est trop long. Et pour moi, Brest-Lens, la main de Lesmelou, c'est clairement, comme dit Monsieur Njimi, pour moi, on veut aller vite, on veut relancer le jeu, on veut pas, et on regarde l'action vite fait, et en fait, on remonte peut-être pas à la bonne phase. On a eu un peu la même action aussi à Strasbourg avec Sekou Fofana qui se prend une manchette ou enfin un raffut, et c'est pareil. Et donc moi, je pense qu'il crée le plus de frustration, justement, c'est cette lisibilité, ce mode opératoire. Si le mode opératoire était plus clair et vraiment utilisé de façon constante. Après, la décision, elle est bonne, elle est pas bonne, etc. On peut discuter. Mais au moins, on a un processus et un cheminement intellectuel qui, lui, est conforme, qui est garanti un peu partout et uniforme, et qui permet justement au moins d'éviter ces frustrations qui sont le côté aléatoire un peu de la VAR, où on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être saisie ou pas, en fait.
Vas-y, Antoine, et après, je reprends.
Ouais, juste après, il y a un contre-exemple de ces décisions qui sont allées à l'encontre du RC Lens, puisqu'on parle du RC Lens ce soir. C'est aussi ces fautes non signalées ou non vérifiées par la VAR parce qu'elles étaient très en amont d'une action. Puis après, il y a cette fameuse faute sur Loïs Openda à la 95e minute à Reims, où là, il se fait clairement faucher dans une zone de finition et où, sans l'intervention de Abdelhamid, je crois, clairement, Lens l'emporte. Et là aussi, il y a quelque chose qui est incompréhensible dans la méthodologie, c'est-à-dire que là, on est à la fin du match. On a l'impression que l'arbitre, il n'a pas envie de prolonger la rencontre parce qu'on est déjà au-delà du temps additionnel. Et c'est vrai que là encore, il y a un manque de lecture, il y a un manque de transparence dans la grille d'interprétation qui fait qu'à la fin, on se retrouve face à des situations où en fait, on est dans le vague et on ne peut pas travailler sur les solutions.
Vous voulez réagir, Saïd ?
Oui, parce que... Encore une fois, bon, d'abord, il faut aussi reconnaître que le RC Lens a dû bénéficier, sans le vouloir, de décisions.
Évidemment.
Voilà, c'est important de le dire, parce qu'à partir du moment où on est en phase sur le fait que les erreurs, y compris de la vidéo, profitent ou défavorisent tout le monde, ça veut dire qu'on est dans un registre d'équité et qu'on peut avancer. Une fois qu'on a dit ça, le mode opératoire est assez clair. C'est-à-dire que vous avez raison de dire erreur manifeste, mais c'est quoi une erreur manifeste? Deuxièmement, les buts sont systématiquement checkés.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on regarde systématiquement les buts et qu'on devrait s'accorder un petit peu de temps et peut-être être un peu moins mis sous pression pour relancer le jeu rapidement, puisque la vidéo doit être traitée de manière rapide. C'est un peu schizophrène. D'un côté, on veut la perfection. Et de l'autre côté, on ne prend pas le temps nécessaire dans un contexte où on va vous engueuler parce que vous n'avez pas pris la bonne décision et on va vous engueuler parce que vous avez pris la bonne décision, mais trop tardivement. Parce qu'en réalité, quand la décision est bonne et qu'elle est prise trop tardivement, on reproche le délai. On ne se pose pas la question de savoir si ce n'est pas pertinent justement d'avoir pris le temps. Et comme ce football est un sport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dynamique, qui nécessite d'aller vite, et c'est logique. Les choses resteront toujours un peu difficiles. J'essaierai de vous convaincre que ce genre d'émission, vous pourrez les refaire encore de nombreuses fois, puisque les erreurs très grossières ne disparaîtront pas.
On essaiera quand même de trouver avec vous des solutions dans un instant, oui, pour essayer en tout cas d'améliorer les choses. On a envie. Mais d'abord, quand même, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'on l'entend parfois et on a entendu d'ailleurs des joueurs l'évoquer. Ce système de notation des arbitres, oui, est-ce que ce système de notation, et on se souvient de la réaction de Jean-Louis Lecast il y a 2 ans après un derby où il disait de toute façon les arbitres, ils se protègent entre eux parce qu'il y a l'histoire de notation. On entend dire, certains disent en tout cas qu'il y a du corporatisme entre les arbitres et la VAR pour justement pas trop déjuger son collègue, parce que sinon il va être mal noté, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens, à Jean-Louis Lecain notamment, et puis à ces gens qui disent qu'il y a du corporatisme entre les arbitres?
Alors, le corporatisme a toujours existé. À partir du moment, si vous voulez, où on est dans un environnement où l'entre-soi est privilégié, où on a du mal à aller vers les autres, où on a du mal à discuter avec les médias, on a du mal à discuter avec les joueurs, on a du mal à accepter, en fait, le rôle de l'arbitre qui, encore une fois, consiste à accepter la pression. Vous ne pouvez pas rentrer sur le terrain en tant qu'arbitre en espérant que les joueurs soient sympas avec vous, ça n'existe pas. Donc, il faut déjà rentrer sur le terrain en partant du principe que la pression est existante et qu'elle va exister tout au long de la rencontre. C'est le meilleur moyen de garder le sourire et de prendre les choses de la meilleure manière possible pour essayer d'apaiser les uns et les autres. Pour revenir sur le sujet de la notation, heureusement que celui-ci va être revu, puisque le VAR, en appelant l'arbitre, si le VAR se trompe, il est pénalisé. L'arbitre, s'il s'est trompé et que le VAR a raison, c'est l'arbitre qui est pénalisé. C'est juste une plaisanterie. En réalité, personne ne devrait être pénalisé.
C'est un non-sens, on est d'accord.
C'est une plaisanterie. Et le fait, si vous voulez, de vouloir pénaliser les arbitres sur des situations qui sont traitées à la vidéo n'a absolument aucun rapport avec l'objectif recherché, qui est justement de rétablir l'équité. Or, si vous détruisez l'équité entre arbitres en les pénalisant parce que justement ils veulent remettre l'équité, ben vous créez le brouhaha en permanence où les uns ne veulent pas appeler la VAR, prétextant une carrière déjà bien aboutie et qui peuvent s'en passer, pendant que les plus jeunes sont terrorisés à l'idée de se faire appeler par le VAR en espérant faire une saison de plus en Ligue 1. Enfin, on pourrait aller loin. Mais une fois que vous avez passé les 5 ans en Ligue 1 et que vous êtes plus ou moins accepté et respecté par le contexte général, bon, c'est un peu comme si vous aviez votre permis de conduire et qu'il y avait une petite tolérance qui vous est accordée. Mais les 4-5 premières années, il fait pas bon vivre si vous évitez pas les balles.
Suite à ce match face à Brest, le RC Lens, agacé, a sorti une vidéo, une compile des 3 erreurs d'arbitrage selon le Racing Club de Lens, avec des petits jeux de mots, etc. Vous, en tant qu'arbitre, est-ce que, si vous étiez toujours en activité, et même d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que vous acceptez ce genre de communication de la part d'un club de foot qui se sent lésé, ou au contraire, est-ce que ça crée peut-être encore plus de défiance de l'arbitrage envers ce club-là, parce que justement, il est remis en cause?
Alors, on peut le prendre de deux manières. La première manière, c'est le côté humoristique de la chose. Après tout, autant rire de tout. Mais je trouve que ça dessert un peu le contexte général. Après, peut-être que le RC Lens...
C'est pas ce que dit le RC Lens. Le RC Lens dit alors, justement, c'était pour faire avancer les choses.
Non, mais j'essaye de vous répondre. Hein, je dis pas que j'ai raison. Hein. Mm-hmm. Après, il y a une deuxième manière de voir les choses. C'est que si le corps arbitral avait fait preuve d'une plus grande humilité immédiatement à destination du RC Lens, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Vous voyez, c'est ça que je voulais compléter. Et encore une fois, moi, je suis partisan du dialogue total et absolu. Je ne suis pas certain que les dirigeants du RC Lens aient pu être rassurés à la fin du match. Et rassurés, ça veut dire quoi? On s'est planté. Point.
Ah, mais il me semble d'ailleurs que Francaise a voulu voir M. Bastien, qui était l'arbitre de ce match-là, et que M. Bastien lui aurait répondu, hein, ça, c'est les mots de Francaise, qu'il n'avait pas encore revu les images et qu'il ne pouvait pas justement dialoguer avec lui.
Il y avait un problème de réseau. Voilà ce qu'il y avait.
Il y avait un problème de réseau.
Voilà. Alors, mais... c'est possible. La seule chose que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas compris, si on n'a pas compris que ce foot est instantané et que les gens ont besoin de réponses immédiates et que c'est absolument pas dramatique de regarder les images, y compris avec une tablette amenée par le club, parce que si jamais il n'y a pas de réseau dans le bureau des arbitres, ça peut arriver, bon, bah, on charge le club de venir avec une tablette, on regarde les images ensemble, et à part vous dire que je me suis trompé, qu'est-ce que vous voulez que je...
Mais est-ce que c'est difficile pour un arbitre de dire « je me suis trompé » justement, on a l'impression un petit peu...
Non, alors ce qui est violent, si vous voulez, c'est que les erreurs sont maintenant vraiment vues, revues, encore revues, et stigmatisées par le fait que ce n'est pas admissible de ne pas les avoir corrigées alors même qu'on a la vidéo. C'est là, si vous voulez, qu'il faut que je prenne la défense des arbitres, puisque j'aurais été dans la même situation, où c'est d'une rudesse sans nom de vous voir devant le fait accompli alors que vous êtes à 4 mètres de l'action. C'est déstabilisant. Imaginez un arbitre assistant qui lève une position de hors-jeu ou qui ne la lève pas et qui ensuite, la vidéo, confirme l'inverse de sa décision au bout de 2 minutes de jeu. Il va falloir faire les 88 autres. C'est humainement, c'est extrêmement difficile, c'est peut-être même ravageur.
On est d'accord. Et évidemment, on comprend, hein, les arbitres restent quand même des simples humains et parfois les gens l'oublient, hein, même avec la vidéo, on reste humain. Avec son interprétation, avec sa façon de voir les choses. Et ça, peut-être pas mal de gens aussi l'oublient dans le feu de l'action, on va dire. Parce que, comme vous le dites, hein, on réagit sur l'instantané, peut-être avec un peu d'agacement, peut-être encore un peu d'adrénaline.
Ce qui est dérangeant, quelque part, si vous voulez, c'est que les joueurs, lorsqu'ils sont en conférence de presse ou lorsqu'ils sont interviewés, évidemment, ils sont critiqués, et c'est normal, lorsque leurs prestations sont insuffisantes. À l'inverse, ils sont félicités, parfois adulés, lorsque leurs prestations sont bonnes. Si on veut que le système fonctionne, il faut aussi de temps en temps que les arbitres soient félicités lorsqu'ils prennent une bonne décision, lorsqu'ils ont mis le carton rouge, lorsqu'ils ont laissé un bel avantage et que les médias s'en emparent de telle façon à ce que ce soit beaucoup plus facile à vivre. Si vous passez votre temps en fait, à venir sur le terrain et que la seule chose que l'on vienne vous dire c'est pas bien ce qui a été fait, bah vous rentrez dans un cycle de renfermement sur vous-même et vous n'avez pas vraiment envie d'aller voir les autres. Et là, les clubs et les joueurs ont un vrai travail, un vrai rôle à jouer.
Greg, je te donne la parole.
Oui, alors en tant que représentant des médias, entre guillemets, des journalistes qui font des conférences de presse d'après-match, évidemment, je souscris complètement à ce que dit M. Njimi, parce que nous, on a un rôle évidemment amplificateur, c'est-à-dire que véritablement, quand il y a un questionnement, ça, derrière, on parle de polémique, tout dépend comment on gère les choses aussi à titre individuel, mais évidemment, derrière, quand il y a un questionnement, notamment après le match contre Brest, tout le monde se pose la question, et n'avoir aucun interlocuteur, et l'interlocuteur le plus fiable dans ce cas-là, c'est évidemment l'arbitre. On peut aussi avoir un rôle amplificateur dans le dialogue autour des matchs de foot. Si évidemment l'arbitre vient de dire, j'ai pas vu, j'ai pris cette décision parce que, et ça rendrait déjà les choses plus humaines. Et aussi pour nous, c'est-à-dire que derrière toutes les polémiques que vous pouvez voir fleurir ensuite en fonction des émissions, etc., qui amplifient évidemment une erreur d'arbitrage ou une supposée erreur d'arbitrage d'ailleurs. Moi, j'estime que vraiment, sans vouloir absolument avoir une conférence de presse de l'arbitre à chaque fois, avoir cette possibilité-là, quasiment dans l'instant après le match, ça permettrait d'éteindre absolument tout de suite et enfin de donner un avis qui est celui de l'arbitre, qui est absolument respectable quel qu'il soit, mais qui soit expliqué. Et moi, je ne comprends pas encore cette manière presque... j'ai envie de dire ancestral, de s'enfermer dans l'entre-soi, c'est le terme qu'avait employé M. Njimi tout à l'heure, et vraiment je milite pour ça, non pas pour ma corporation, évidemment que pour nous ce serait super intéressant, mais aussi pour, au bout du compte, les observateurs du foot, les spectateurs du foot, qui comprennent mieux ce qui a pu se passer, parce que évidemment quand on laisse couler le silence dans ces cas-là, je ne pense pas qu'il soit bénéfique aux gens qui ont pris les décisions.
Eh bien ça tombe bien Greg, parce que justement on va essayer de réfléchir avec vous M. Njimi, comment arranger les choses, modifier les choses, faire en sorte que les choses se passent mieux pour l'arbitrage français. Est-ce que ce que vient de vous dire Greg, notamment, est-ce que ça peut être une des clés pour essayer d'assainir la situation de l'arbitrage en France ?
Alors, moi, j'étais un des partisans de la proximité avec les médias, non pas pour sympathiser avec eux, puisque chacun son job. Bon, il y aura toujours une question qu'il faudra qu'on se pose. Est-ce que l'intérêt du média, c'est de faire de la polémique ou est-ce que l'intérêt du média, c'est d'essayer d'apaiser les choses ? Bon. Je lance la question, je sais très bien que les réponses ne sont pas évidentes, mais je crois d'abord et avant tout qu'il faut que les arbitres puissent avoir de bons rapports avec les journalistes. Alors, des bons rapports, ça ne veut pas dire s'acoquiner avec le journaliste pour espérer un bon papier. Les bons rapports, c'est d'être honnête, de faire encore une fois preuve d'humilité. J'utilise beaucoup le terme humilité, hein, si vous avez remarqué. On ne peut pas rester très longtemps à très haut niveau si jamais on n'a pas compris que la fonction, par définition, ne suscite que des critiques, ou quasiment que des critiques. Donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire preuve d'humilité, bon, en ayant toujours un peu de coffre, évidemment, pour ne pas se laisser marcher dessus. Mais vis-à-vis des médias, c'est se rapprocher, évidemment, d'eux. Pour moi, le deuxième sujet, c'est les présidents de club. Les présidents de club ne sont pas suffisamment mis devant le fait accompli. Alors, il y a les entraîneurs, les capitaines, vous le savez. Il y a des visites dans les clubs pour les joueurs. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Les joueurs savent exactement ce qui se passe et ils savent, et ça ne sert à rien d'aller expliquer des phases de jeu à des joueurs pour que sur le match concerné, ils puissent vous dire pourquoi vous êtes venu m'expliquer quoi alors que vous avez fait B. B, c'est l'erreur, tout simplement. Le sujet, c'est les présidents de club, les patrons de société, de spectacle, avec qui il faut s'accorder sur c'est quoi le spectacle. Est-ce que le spectacle, c'est toujours de mettre sur le grill l'arbitrage? Est-ce que le spectacle, c'est pas aussi vous-même, président de club, de le protéger quand bien même vous êtes déçu d'une décision? Et comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon tempo pour que lors d'une conférence de presse, par exemple, il puisse y avoir le président du club, l'entraîneur, et aussi l'arbitre pour expliquer une situation? Et je trouverais intéressant, par exemple, que le président de club dise « J'apprécie la manière que l'arbitre et l'entraîneur ont parlé » et de créer quelque chose de telle façon à ce que l'arbitre soit plus intégré au contexte familial du football. Pour l'instant, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça fait des dégâts. Le foot perdurera, mais ça crée des dégâts. Et ça crée des dégâts entre les hommes. Les joueurs, ils n'ont plus confiance. Quand il y a un arbitre, moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec beaucoup de clubs. C'est extrêmement difficile de remonter la pente. Hein. Quand vous avez deux ou trois matchs difficiles avec un club, vous êtes un peu...
Après, on vous catalogue aussi un petit peu en plus.
Hein. Exactement. Alors même, si vous voulez, qu'en ayant fait une erreur sur le match numéro 1, vous n'avez pas envie qu'elle se reproduise sur le match numéro 2, mais en vous disant qu'elle ne doit pas se reproduire, c'est là qu'elle se reproduit. Et ça, c'est l'expérience qui fait que vous essayez de passer tout de suite à autre chose. Mais les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs se disent, peut-être à juste titre, hein, j'en sais rien, ça m'étonnerait, qu'avec celui-là, ça va être encore la même histoire. Et on démarre…
Et c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, hein, justement, hein, avec certains arbitres pour lesquels le Racing Club de Lens a eu des décisions non favorables, etc. etc. C'est ce qu'on voit. Hein.
Ce qu'on aimerait, c'est que le Racing Club de Lens, comme d'autres, hein, puisse prendre un petit peu de recul et analyser les décisions favorables. Je ne dis pas que ça va changer les choses. Merci. Je dis juste que les gens, les clubs, les présidents, les dirigeants, les entraîneurs doivent s'interroger sur l'impact réel de l'arbitrage sur leur saison. Si il est manifestement difficile, c'est normal. Le cas de Brest, c'était normal de dire que c'était pas logique. Par contre, j'ai lu ensuite les commentaires du club que j'ai trouvé très intelligent, très intéressant, parce que l'envie de faire évoluer, de faire progresser les choses. Mais je n'entends pas encore les clubs, ni les joueurs, ni les entraîneurs se remettre en question eux-mêmes, puisque au final, ça ne dépendra pas que de l'arbitre. Il faudra aussi une réaction plus apaisée, plus constructive de la part des clubs, plutôt que de considérer légitime de gagner, y compris avec une erreur à son profit. Y compris avec une erreur à son profit. Et c'est là qu'on arrive au bout du système.
Mais vous dites qu'il faut, avant de siffler à la mi-temps, dernière question, vous dites qu'il faut accepter et remarquer quand il y a des bonnes décisions de l'arbitre. Mais est-ce que ce n'est pas juste normal qu'il y ait des bonnes décisions de l'arbitre et pas normal, en fait, qu'il y ait des erreurs? C'est un peu... On a un commentaire dans le chat de l'émission de Clément qui dit « Je veux bien que le traitement des arbitres soit juste, mais prendre les bonnes décisions, c'est leur travail ».
Oui, comme le travail de l'attaquant est de marquer systématiquement. Et je ne dis pas que votre auditeur a tort, il a raison. Je dis que pour bien vivre en famille, il va falloir intégrer les arbitres au contexte. Charge à eux aussi de faire preuve d'humilité. Il y a des attitudes, moi, que je ne supporte plus. des postures vis-à-vis des joueurs, des façons de parler aux joueurs, des façons de les regarder, des façons de mettre les cartons qui sont inadmissibles.
Guillaume, tu veux réagir ?
Pardon.
Juste rapidement, monsieur Njimi, moi, l'attaquant qui loupe 5 buts, à un moment, son entraîneur, il le met plus titulaire le coup d'après. Je pense que ce qui, on a le sentiment, alors après, peut-être que je me trompe et je ne maîtrise pas bien les arcanes des nominations, etc. Mais qu'un arbitre qui fait une erreur, même il peut enchaîner plusieurs erreurs, il se retrouve quand même sur un autre match le coup d'après, en fait. Alors, on a le sentiment qu'il n'y a pas.
Non, là-dessus, sincèrement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ceux qui durent, ceux qui sont là depuis longtemps, malgré le fait qu'ils ne sont pas forcément aimés pour tout un tas de raisons, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs.
Oui, les
arbitres qui sont là depuis longtemps, malgré tout ce qu'on peut en dire. Et il y a des arbitres qui malheureusement font plus d'erreurs que d'autres et ils sont rétrogradés.
Alors, c'est peut-être que le temps, c'est sur du temps long. Alors, c'est pas l'immédiateté de l'attaquant, comme je dis, qui le prochain match, il joue pas. Dans le système d'arbitrage, c'est beaucoup plus long.
Vous ne pouvez pas faire autrement parce que autant effectivement, comme vous le dites, sur un attaquant, on va apprécier le triplé qui va marquer. Mais de vous à moi, si l'attaquant ne fait qu'un triplé, on risque pas forcément de le voir tous les matchs. Les joueurs, de la même manière, sont scrutés tout au long de la saison. Et c'est la régularité qui fait, par exemple, que le RC Lens est là où il est aujourd'hui.
Tout à fait.
Et puis, si on sanctionne un arbitre pour une faute le match suivant, au final, on n'aura plus jamais d'arbitres qui auront la capacité à pouvoir enchaîner, à arbitrer en Ligue 1 au plus haut niveau du foot français sur toute une saison. Je pense que c'est un peu comme vous disiez, un attaquant, c'est pas parce qu'il rate 2-3 matchs qu'on va tout de suite le sanctionner, on va essayer de prendre du recul. Donc, en fait, c'est aussi un peu pernicieux dans le sens où effectivement, il faut laisser, même s'il y a quelques erreurs manifestes sur des décisions arbitrales, il faut laisser l'arbitre pour pouvoir tout simplement qu'il y ait une continuité dans ses performances.
Il faut essayer de relativiser, encore une fois, se poser la bonne question de savoir si l'arbitrage a pesé sur la saison, sur le début de saison, sur le milieu de saison. La stratégie, la tactique qui consiste à charger l'arbitre pour protéger son vestiaire, bon. Oui. Tout ça, on connaît. Simplement, si vous voulez, cette hypocrisie permanente qui consiste à se taper tous dans l'épaule avant les matchs et à se flinguer à la fin des matchs, c'est pas de nature à faire perdurer ou faire évoluer un système tel qu'on le souhaite. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'une seule chose, c'est la relation humaine. On est au taquet de la technologie. Ça va peut-être encore un peu s'améliorer. Pour que ça s'améliore grandement, il faut qu'on ait des relations humaines qui soient plus dans la confiance. Et si vous mettez les uns et les autres dans la confiance, normalement, on va encore réduire ce pourcentage d'erreurs qui aujourd'hui me semble déjà bon. Mais si un joueur vous fait confiance et qu'il passe à autre chose après une soi-disant erreur ou une erreur réelle constatée à la mi-temps, par exemple, je pense que l'arbitre va pouvoir lui aussi se remettre en question et il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire qu'il n'a pas été bon, il le sait. Après, ça dépend des hommes. Et encore une fois, je serai le premier à critiquer les attitudes. Je trouve insupportable qu'un arbitre se prenne pour ce qu'il n'est pas et qu'il bombe le torse devant un joueur. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils fassent le meilleur match possible. Et puis, je ne vous apprends rien. Quand on ne voit pas l'arbitre, ça veut dire qu'il a été bon.
Tout à fait. On continue avec vous, Saïd Djimi, hein, dans l'émission Culture Senior dans un instant. On va siffler à la mi-temps, on va se détendre un petit peu, 2-3 minutes, avec le quiz de Culture Sang et Or. C'est un quiz qui se joue en équipe de 2. Je vais vous laisser choisir votre coéquipier, Saïd.
Avec Antoine, c'est Antoine.
Saïd Djimi et Antoine.
Antoine, c'est l'assistant de Saïd aujourd'hui.
Passe à Greg et Guillaume.
Je vous dis, on est mort.
le thème du quiz, les matchs du RC Lens arbitrés par monsieur Njimi. C'est un quiz de rapidité.
Il a quand même un avantage normalement, Saïd. Ouais.
Il faut donner son prénom avant de répondre à la question. Première question, quel est le dernier match du RC Lens arbitré par monsieur Njimi? C'était un match à Montpellier le 13 décembre 2014. Quel était le score final?
Saïd. Guillaume. 3-3.
Oui, Guillaume, 3-3. Pardon ?
Non, j'avais dit Saïd en premier, mais bon.
Bah oui, mais ça compte pas. Il faut dire son prénom, il ne faut pas donner la parole. Ouais.
Et d'ailleurs, Wesley Saïd, il n'était pas là en 2014, hein, Antoine. Hein.
Non, ouais, Wesley Saïd, il n'était pas là en 2014. Ouais. C'était bien 3 buts partout. C'est le dernier match du Racing Club de Lens que vous avez arbitré de votre sacré carrière, match. Monsieur Ndjibi, au stade de la Mosson en 2014.
Non, c'était pas la Mosson, je crois pas. Je crois justement que ce match n'était pas la Mosson. Il était délocalisé pour, sur le terrain de rugby de Montpellier, je crois.
Ah, ouais, c'est possible. Dit... Tout à fait, maintenant que tu le dis, Greg, ouais, c'est possible. Ouais. J'avais pas été jusqu'au bout de la.
Et monsieur Ndjimi, vous avez oublié 4 pénaltys pour Lens d'ailleurs ce soir-là.
Allez, deuxième question. Ça fait 1-0 pour l'équipe Greg et Guillaume. Deuxième question. Saïd Ndjimi n'a arbitré qu'une seule confrontation entre Lens et Saint-Etienne. Où le match s'était-il joué ? Alors ?
Bah, Antoine ?
Antoine ?
Bah, je dirais Guignon. Enfin, c'est souvent que ça se passe comme ça. Hein.
Non.
Bah, Greg.
Greg.
Bah, je vais dire. Je sais pas pourquoi. Je vois bien Monsieur Ndjimi à Geoffroy Guichard.
Non.
Oui.
Guillaume.
Non. Guillaume.
Stade Félix Bollard de l'Hélice.
Pas du tout. Pas du tout.
C'est à Villeneuve-d'Ascq, non ? À Lille.
Non plus, Monsieur Ndjimi.
Guillaume.
Bien sûr que c'était moi.
c'était pas
Guillaume. Guillaume a donné son prénom. Guillaume a donné son prénom avant.
Ah, moi, je sais Greg.
Evian.
Pardon ?
Evian.
Non, Greg.
Vichy.
Non, Antoine.
La licorne Damien.
La licorne Damien, tout à fait. Oui. Le stade de la licorne, c'était la fameuse saison où le Racing Club de Lens jouait à Amiens.
Ouais, je me suis dit que M. Ndjimi était quand même un peu trop jeune pour avoir arbitré la demi-finale à Reims en 75. En
75. moi, je pensais à la finale de la Coupe de France en 77.
En 75.
Pas du tout. Monsieur Ndjimi a commencé sa carrière en 99. Hein, donc.
j'ai dit Reims, mais c'était la demi-finale contre le PSG. Excusez-moi, tant pour moi.
Allez, troisième question. Il y a un partout. Le 21 décembre 2012, après avoir été mené 2-0, le RC Lens égalise à la dernière minute au stade Parsemin. Contre quelle équipe se déroulait ce match ?
Greg. Bien sûr, à Istres.
À Istres, exactement.
De Johan Tousgard.
Istres lance égalisation du Johan Tousgard à la 92e minute. Ouais.
Il n'était pas hors jeu, il était couvert de 2 mètres. Il n'y a que M. Ndjimi, l'excellent M. Ndjimi qui avait vu qu'il n'était pas hors jeu ce moment.
Allez-y, M. Ndjimi, là, on n'est pas encore complètement mort. Là.
Quatrième question qui peut être décisive déjà. En mars 2012, Saïd Ndjimi arbitre un match à Boulogne-sur-Mer où un fait incroyable
Craig,
se produit. Mais laisse-moi finir ma question.
Mais Craig!
Un fait incroyable se produit. Un but en pleine lucarne d'un joueur prêté Greg. Par le PSG, Greg.
Hauts-de-France, mais quasiment l'Europe du foot. Tellement c'était un but extraordinaire en Ligue 2 dans un match pourri du lundi soir.
Il me semble qu'il y avait un temps détestable en plus de la pluie, Absolument. Du vent. Enfin bref, c'était un bourbier monumental. Et le Racing Club de Lens jouait en maillot bleu et jaune fluo en plus ce soir-là.
Bah, vraiment, tout était incroyable. Tout était incroyable.
Bon, bah, le quiz est gagné. On va quand même poser la dernière question parce qu'on va profiter de Monsieur Ndjimi hein, quand même dans ce quiz. En août 2011, les hommes de Jean-Louis Garcia s'imposent devant 3-1 à Bollaert.
Oui.
Quel joueur, au nom de Fête Foraine, inscrit le but de la victoire ?
Greg.
Il est insupportable. Greg.
Pierre Ducasse, et je crois qu'il y avait un but de David Paulet aussi, je crois.
Pierre Ducasse, c'est bien ça. Bon, monsieur Ndjimi, ouais. Malheureusement, vous n'avez peut-être pas choisi le bon binôme.
Non. Et franchement, vous êtes très, très fort.
On m'a envoyé toutes les questions cet après-midi. Alors c'était vachement
plus ah oui, d'accord.
C'est faux, je vous assure, monsieur Ndjimi.
J'ai la VAR dans l'oreillette qui me balance toutes les infos depuis tout à l'heure.
Bravo.
Bon, c'est une victoire de Greg et Guillaume. Bravo, messieurs. On va passer à la deuxième mi-temps de ce Culture Senior. Et on va s'intéresser un petit peu plus à vous personnellement, Saïd Ndjimi. On a beaucoup parlé arbitrage en général et surtout sur ces dernières semaines. Mais on va s'intéresser à vous, ancien arbitre français et international de 99 à 2017, si je me trompe pas. Surtout si je me trompe, vous me dites. Hein. 300 matchs Ligue 1 et Ligue 2 confondus, quasiment. Vous avez arbitré des matchs de Ligue des Champions, d'Europa League, des matchs internationaux de qualification, notamment à l'Euro 2012, si je me trompe pas. Est-ce que vous savez le nombre de cartons que vous avez distribués dans votre carrière ?
Non, je me suis jamais intéressé à cette statistique.
1430 cartons jaunes, 75 cartons rouges. C'est peu, 75 cartons rouges, finalement.
Un sur quatre, tous les 4 matchs.
Vous êtes né à Casablanca, vous avez 49 ans, et vous avez grandi à Limoges, si je me trompe.
Exact.
Comment allez-vous déjà, monsieur Njimi, aujourd'hui ?
Très bien.
Tout va bien dans votre vie. Comment se passe votre quotidien ? Vous êtes président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, il me semble.
Oui. Alors, c'était une belle occasion pour moi de vivre ma petite mort. Parce que quand on arrête une carrière sportive, surtout quand le foot en particulier gère votre vie, en réalité. Parce qu'on s'entraîne tous les jours, on fait les matchs. Je me suis interrogé quelques temps avant de terminer en 2017 sur ce que je pouvais éventuellement faire. Et je me suis intéressé au monde amateur. Et à cette époque, la Ligue de l'ex-Centre-Ouest Limousin-Poitou-Charentes à laquelle j'appartenais a fusionné avec l'ex-Aquitaine, ce qui a donné la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des grandes régions aujourd'hui françaises. J'ai été élu en 2017, réélu en 2020. Et ça a été un bon moyen, c'est un bon moyen aujourd'hui pour moi d'avoir fait le tour du foot, en quelque sorte. Et c'est plaisant aussi de s'intéresser au monde amateur dont on parle trop peu. Avec des difficultés, on parlait d'arbitrage, mais être arbitre en Ligue 1, quel bonheur par rapport à être arbitre dans les divisions départementales, où je vous assure qu'il faut être courageux parfois pour aller sur les terrains départementaux ou régionaux, se faire copieusement insulter, parfois frapper, trop souvent irrespecter, pour pas grand-chose.
Vous débutez votre carrière d'arbitre, il me semble, en 99, c'est en championnat de France amateur, on appelait encore ça la CFA à l'époque. Je voudrais revenir juste un petit peu plus tôt, hein, quand vous étiez plus jeune, monsieur Njimi. Qu'est-ce qui a donné envie au jeune Saïd Njimi de devenir arbitre ? Pourquoi ?
Alors, j'ai grandi dans un quartier dans lequel une équipe avait été construite et je les accompagnais au début en faisant la touche, en 3e division de district. Et la réglementation sur l'arbitrage impose à chaque équipe, à partir d'un certain niveau, de proposer un arbitre au profit de la collectivité. Donc après cette première saison, qui s'était bien passée parce que mon frère, plus grand, plus âgé que moi, jouait dans cette équipe, donc ça me faisait plaisir. Je jouais au foot hein, aussi. Hein. Bon, j'étais un bon joueur de régional. Je serais pas devenu professionnel. Donc je les accompagnais. Pardon.
Vous jouiez à quel poste ?
J'étais milieu de terrain, plutôt offensif. Voilà, j'étais pas coupeur de jambes.
Vous parliez tout le temps à l'arbitre, je crois. Vous n'êtes pas comme Tony Chaperon, vous ne mettez pas des tacs par derrière, quoi.
Tony Chaperon, il est méconnu, c'est un type vraiment bien. Mais bon, je trouve que, par exemple, vous voyez, en termes de communication, ça n'aurait pas été inintéressant, justement, d'avoir une conférence de presse après ce match-là, par exemple. Vous voyez. Mais sinon, pour poursuivre ce que je vous disais tout à l'heure, donc la saison d'après, j'ai démarré en tant qu'arbitre officiel parce que ça m'avait bien plu de faire l'arbitre assistant, bénévole. Et puis ensuite, j'ai démarré et puis je me suis pris au jeu. Et ce qui m'a surtout intéressé, c'était ce contexte d'équité impossible à obtenir et de courir après d'une certaine manière sans jamais pouvoir y arriver. Vous voyez, ça a créé quelque chose de passionnel chez moi, je pense, comme chez d'autres arbitres, d'espérer obtenir la perfection que finalement on n'obtient jamais.
C'est difficile à obtenir et on le voit. Donc je le disais, début en 99, championnat de France amateur, national, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue 2. Et puis à l'issue de la saison 2004-2005, vous êtes classé 3e meilleur arbitre de Ligue 2 et donc vous êtes promu en première division. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match arbitré en Ligue 1 ?
Je crois que c'était à Metz, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, c'était à Metz, à Saint-Symphorien. Ouais.
Contre Le Mans.
Exactement, pour un score.
Il y a des matchs qui marquent plus que les autres. Hein. Le RC Lens, j'ai deux, trois, au moins une anecdote. Mais bon.
On va en parler dans un instant. Vous vous souvenez du score de ce Metz-Le Mans, du coup ?
Alors, je me souviens surtout que c'est un stress terrible.
Ouais.
Je me souviens même plus du résultat, pour être tout à fait honnête.
Zéro partout.
Ouais, mais je me souviens surtout du contexte de la Ligue 1 qui est bien, bien plus délicat à gérer que la Ligue 2.
C'est quoi la différence, par exemple ?
Alors, sur le plan technique, c'est la vitesse d'exécution, pour essayer de le résumer, avec une capacité des joueurs à contrôler le ballon, à ce qu'il reste collé au pied, et puis tout de suite à se projeter vers le sujet suivant. C'est la vitesse, en fait. Donc, et puis, la précision. Donc, vitesse et précision, il y a un monde entre la Ligue 2... Et la Ligue 1. Et puis évidemment, le contexte, le concert médiatique, et puis le rapport avec les joueurs qui n'est absolument pas le même, où on arrive avec des joueurs qui sont déjà des stars pour certains, ou en tout cas prétendus stars, et qu'il faut gérer comme des stars.
Vous étiez stressé quand même à ce moment-là, au moment de ce premier match de Ligue 1, quoi.
Ah oui, j'en ai pas dormi de la nuit la veille, j'en ai pas dormi non plus des jours précédents.
Exact. On se souvient également que quelques semaines plus tard, vous arbitrez le premier match de votre carrière du Racing Club de Lens. C'était un Lens-Rennes en septembre 2005 au Stade Bollard. Et je vous donne en mille, c'était également un 0-0. Voilà.
Oui. Je crois que j'avais mis un carton rouge d'ailleurs ce jour-là à un joueur marocain, sans vouloir dire de bêtises.
De Lens, de Rennes.
Je crois de Rennes.
Ah, peut-être Abdeslam Ouadou, alors peut-être.
Oui, enfin, je ne me souviens plus, mais ça m'avait marqué comme étant d'origine marocaine. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Le premier rouge que je mets, voilà, ça m'avait un peu marqué.
Au fil de votre carrière, comment vous désignerez un petit peu votre style d'arbitrage, votre personnalité sur le terrain? Et est-ce que cette personnalité, ce style, vous l'avez vu évoluer au fil et à mesure de la carrière d'arbitre que vous avez eue?
Oui, alors au début, j'étais raide comme la justice, hein. J'étais en phase de passage du permis. Et puis, je me disais aussi qu'il fallait que je me fasse une place. Parce que j'avais bien compris qu'en fait, c'était compliqué et difficile. Donc, je pense qu'avec du recul, j'étais peut-être un peu trop dur sur l'homme, en quelque sorte. Mais jamais un mot plus haut que l'autre. On ne m'a jamais reproché des insultes ou des choses comme ça. Pour moi, le vouvoiement a toujours été de rigueur, puisqu'il fallait qu'on reste chacun à sa place. Et puis, le temps faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du business, en quelque sorte. Et qu'il fallait gérer les égos comme on gère une pièce de théâtre.
Donc, et aujourd'hui,
je regrette que les arbitres soient trop dans le sportif au sens pur et dur du terme, alors qu'en réalité, il y a évidemment une part très importante de sportif, mais il y a aussi beaucoup de théâtralisation du contexte. Je ne vois pas l'intérêt de courir et de sprinter pour aller faire une remarque à un entraîneur. Il vaut mieux y aller tranquillement, surtout si c'est l'entraîneur de l'équipe locale. Je vois pas l'intérêt.
C'est vrai qu'on observe parfois, comme vous le disiez un petit peu en première partie, hein, des attitudes de certains arbitres dans la façon de sortir le carton jaune, dans la façon de regarder, de parler. Certains observateurs, certains supporters parlent d'arbitres cow-boy, par exemple. C'est un peu votre avis aussi, hein.
Alors oui, ça là-dessus, si vous voulez, pour essayer de... D'abord, il faut se remettre dans le contexte. Ce sont les joueurs et les clubs qui sont importants. Ce ne sont pas les arbitres. Donc, à partir du moment où vous avez accepté ça, que vous n'êtes pas la pièce centrale, mais que ce sont les clubs et les joueurs qui sont les pièces centrales, déjà, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et ensuite, quand vous êtes sur le terrain, il y a plusieurs typologies de joueurs. Il y a les joueurs qui, par définition, sont respectueux, et de l'esprit, et du jeu. Et ceux-là... Il faut les choyer en quelque sorte, les sanctionner évidemment s'ils le méritent, mais dans l'attitude, il faut être en proximité. Et puis, il y a une autre typologie de joueurs parfois, ce sont les personnes plus embêtantes, pour utiliser un mot agréable, où il ne faut pas leur faire de cadeaux, parce que même au sein même du groupe de leur équipe, vous sentez parfois pendant le match qu'ils ne sont pas les plus appréciés au sein même de leur équipe. Et c'est ceux-là en quelque sorte qui sont plus ou moins... sanctionné et sanctionnable plus facilement que d'autres.
Greg, tu voulais poser une question ou réagir face à ça?
Non, c'est juste que j'ai retrouvé la fiche de match du Lens-Rennes et c'était Youssouf Hadji qui était un super bon joueur. Vraiment un très bon joueur technique. Et voilà, c'était juste pour un peu apporter cette précision parce que ça m'a interrogé. Voilà.
Ouais, tu fais bien. Vous avez été aussi, donc, je le disais, un arbitre international à partir de 2008, Ligue des Champions, Europa League, sélection nationale. Est-ce que pour vous, en arriver là, c'est un petit peu la consécration, entre guillemets, d'un arbitre?
Oui, d'une part parce que sortir à l'extérieur des frontières, on est très fiers de représenter les couleurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous voyez un autre football d'un niveau beaucoup plus élevé encore.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous adaptez votre arbitrage en fonction?
C'est facile dans la mesure où la contestation a moins de place, puisque le niveau de technicité s'élève. On parle beaucoup du football anglais, par exemple, mais le football anglais est bien plus qualitatif que de bon nombre de championnats européens. Et les interventions sont plus rares. Vous ajoutez à ça que le public anglais déteste les tricheurs, y compris pour sa propre équipe. Et vous mélangez ça et vous avez un arbitrage qui est extrêmement distant des choses. et qui, évidemment, est plus apaisé quand il s'agit, par exemple, de mettre des cartons, des choses comme ça. Le football latin, quand Messi, j'ai eu l'opportunité de l'arbitrer, il ne vous parle pas. Il n'a rien à vous dire, tellement qu'il s'intéresse qu'au foot. Donc, au final, c'est vrai que quand vous revenez ensuite dans le championnat, bon, bah, vous revenez dans votre quotidien, dans votre spectacle et dans le contexte général du quotidien, comme je le disais tout à l'heure, où il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bon, comme je vous le disais, c'est un peu, enfin, c'est du théâtre. La contestation, on va entourer beaucoup plus facilement un jeune arbitre plutôt qu'un arbitre expérimenté. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller contester un arbitre ou d'entourer un arbitre expérimenté. Donc, tout ça, ce sont des sujets, si vous voulez, qui doivent être traités, encore une fois, avec les clubs pour savoir où est-ce qu'on veut aller.
C'est marrant quand même, c'est marrant juste que ce soit le football anglais, comme dit M. Njimi, qui soit catégorisé comme, enfin, en tout cas le public anglais, beaucoup plus dur avec les tricheurs. Quand on sait que dans l'histoire du Racing Club de Lens, c'est juste pour l'anecdote, quand Lee Dixon avait triché on ne peut plus avec Arsenal, en se jetant sur Tony Vérel en Ligue des Champions, c'est peut-être la plus grosse erreur d'arbitrage qu'on ait vue dans l'histoire. Donc c'est, évidemment, il n'y a pas de généralité dans tout ça, mais c'était un regard très intéressant. Évidemment, quand on a pu voyager et voir les différences entre les championnats, j'imagine que même quand on est arbitre, on doit avoir des différences évidemment de comportement qui sont vachement intéressantes.
Dans un instant, on ouvrira un débat sur la sonorisation de l'arbitrage. Est-ce que c'est la solution, une des solutions pour apaiser un petit peu ces tensions dans l'arbitrage? Mais on va quand même continuer un petit peu encore avec vous, Saïd et Njimi, sur votre parcours. Antoine, tu voudrais poser une question peut-être à Saïd et Njimi?
Oui, en fait, très rapide, une question un peu mitraillette. Quel était votre modèle quand vous étiez arbitre? Et si vous remettiez aujourd'hui dans votre peau d'arbitre, dans quel championnat professionnel de première division d'un pays européen ou européen vous auriez aimé arbitrer un match?
Moi, j'aimais bien Sandor Poel à l'époque. Bon, ça ne va pas beaucoup parler, hein, mais ça faisait partie des arbitres qui dégageaient quelque chose sans même avoir à le dire. Donc, moi, je pense que c'est la quintessence. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de parler, en fait, pour que les gens puissent vous respecter et presque même aussi avoir envie de venir vous parler, mais d'une manière très apaisée. Et puis, je pense que j'aurais effectivement apprécié d'arbitrer dans des championnats, le championnat espagnol, par exemple. Le championnat anglais, je pense que ça m'aurait bien plu, mais même le championnat turc, je pense que ça, j'aurais apprécié avec des ambiances de folie. Vous allez peut-être trouver ça paradoxal, mais des contextes extrêmement difficiles à gérer. Et j'étais de ceux qui se trompaient malheureusement beaucoup plus facilement sur des matchs soi-disant faciles, alors que les matchs
dans des grosses ambiances.
Voilà, avec beaucoup de pression, vous êtes au taquet de la première à la 90e minute.
Un derby de Casablanca, ça aurait pu être pas mal, Saïd.
Oui, vous avez arbitré dans le championnat marocain, il me semble, non?
Ouais. J'ai fait un match au Maroc qui m'a fait bien plaisir. C'était super sympa. Mais ce jour-là, c'était très sympa. Je pense que les joueurs étaient trop respectueux, peut-être. Mais sinon, oui, ce genre de championnat me plaît beaucoup.
Est-ce qu'on a mis l'anecdote de côté, Saïd, hein? Vous avez une anecdote sur le Racing, on va...
Exactement, j'allais y venir. Hein, Saïd Njimi, vous avez arbitré le Racing Club de Lens quelques fois. J'ai quelques matchs que j'ai notés sur mon petit papier. Un Lens-Créteil, déjà, deuxième tour de Coupe de la Ligue en 2013, où le Racing s'incline 4-3. Au stade Bollard. Je dois dire que quand j'ai un petit peu fait mes recherches, il n'y a pas beaucoup de matchs incroyables du Racing Club de Lens que vous avez arbitré, et il y a pas mal de défaites ou de 0-0, hein, d'ailleurs. Un Lens-Boulogne en 2009 en Ligue 2, où le Racing s'incline 1-0 à Bollard également. 2-0-0 en Ligue 1 en 2008 face à Monaco et Nice. Voilà, c'était pas non plus la folie furieuse. Est-ce que vous avez des souvenirs sur le Racing Club de Lens, des anecdotes un petit peu comme ça de votre carrière d'arbitre?
Alors d'abord, faire 0-0 contre Monaco et Nice à l'époque, je pense que c'était plutôt de bonne
surtout performance. Surtout en 2008, parce qu'on n'était pas très bon en 2008.
Voilà, donc on peut le voir aussi comme ça.
C'est vrai.
Mais là, non, alors les anecdotes, c'est surtout l'ambiance du stade. Enfin, c'est un de mes préférés, et c'est pas parce que je suis avec vous ce soir, mais quand on s'est chauffé, d'abord, il n'y a pas de grillage. Je ne sais pas aujourd'hui, mais non. Il n'y a pas de grillage. Et quand on s'est chauffé sur le bord du terrain, c'était un des stades où on allait quand même sur le bord de la touche. Qui dit bord de la touche dit contact avec les supporters. Et le contact avec les supporters, c'était toujours très sympa avec bon, monsieur Njimi, aujourd'hui on aurait bien besoin d'un pénalty. Enfin, c'était vraiment très très agréable. Moi, je garde un souvenir exceptionnel du public lensois, même après les matchs où il y a eu des fois où on méritait notre sort, mais je n'ai jamais trouvé ce public injuste. Je l'ai toujours trouvé juste. Et c'était vraiment appréciable. Puis l'anecdote, c'est vous savez que il y a la Marseillaise qui est chantée.
La Lensoise. Ouais.
Voilà. Et puis surtout les corons à la mi-temps.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Les corons à la mi-temps, bon, moi ça m'a toujours fait des frissons parce que c'est une chanson que je trouve sympa et qui résume bien le Nord. Et j'ai pas voulu couper la chanson. Et je devais pour autant reprendre la deuxième mi-temps. Donc, j'ai voulu que ça aille jusqu'à son terme. Je me suis fait un peu secouer par le délégué au risque d'avoir un rapport. Mais on a été au coron jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté.
Belle anecdote, ouais. Guillaume, tu veux poser une question à M. Njimi ?
Ouais, je veux dire, ça fait 3 ans que sur Culture 100 Heures, on essaye d'expliquer pourquoi le Racing Club de Lens performe, etc. Il suffit juste d'expliquer que vous avez pris votre retraite et depuis, on n'a que des bons résultats parce que vous ne t'arbitrez plus. C'était plus simple.
Alors, figurez-vous que c'est pour ça que je me suis arrêté. Parce que comme je vous disais, apprécier les supporters lensois, il était naturel que j'arrête.
Merci beaucoup. Pour finir l'interview avant de terminer l'émission avec le débat, est-ce que au-delà du Racing Club de Lens, vous avez un match qui vous a le plus marqué dans votre carrière, un meilleur souvenir comme ça?
Non, j'en ai pas, parce que j'en ai vécu vraiment, vraiment beaucoup. Vous voulez dire dans le championnat de France?
Peu importe, ça peut être un match international, un match de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un match où vous êtes dit en sortant, waouh?
Non, là, comme ça, il y a un Irlande du Nord, Uruguay, que j'ai trouvé exceptionnel, où ça avait fait 4-4, je crois, si mes souvenirs sont bons. Superbe. Où quand vous êtes à 4-4, vous ne faites que voir du jeu et du foot, surtout avec des équipes nationales. Après, j'ai d'autres souvenirs comme la finale de la Coupe des Tom, des territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, où il y avait 10 000 spectateurs et peut-être 200 ou 300 tam-tams sur l'ensemble du terrain. Vous imaginez l'ambiance, vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'élite. Mais c'est des moments rares, et c'est pour ça que je dis que les arbitres ont de la chance et qu'ils doivent en être convaincus. Et après, derrière, que les joueurs de foot, les dirigeants ont aussi de la chance, et que normalement, entre chanceux, on doit être capable de se parler et de trouver le bon tempo.
Allez, on va clôturer cette interview, ce Zoom avec vous, Monsieur Saïd Njimi. On termine l'émission avec notre débat. On en parlait tout à l'heure, des solutions à apporter pour essayer d'arranger les choses, d'assainir un petit peu la situation, de l'arbitrage, l'apaisement avec l'arbitre, les joueurs, les supporters. C'est vrai que cette ambiance est parfois un petit peu lourde. On a entendu parler ces derniers temps d'une possible sonorisation de l'arbitrage, ce qui se fait peut-être pas au-delà, au niveau tout de suite du rugby, mais ça se fait au rugby notamment, on entend l'arbitre parler, on l'entend l'arbitre communiquer. On a aussi certaines chaînes télé, notamment Prime Video, qui parfois font un petit focus sur l'arbitrage avec un micro sur la durée d'un match. C'est vrai que moi, personnellement, quand je vois ça, j'ai pas la même vision de l'arbitre, j'ai pas la même vision de l'arbitrage. On comprend peut-être plus de choses. Est-ce que pour vous, et je donnerai aussi la parole à mes chroniqueurs. D'ailleurs, je vais commencer. Tiens, je vais vous garder pour la fin, c'est Eden Jimmy, et je vais commencer avec les chroniqueurs. Guillaume, est-ce que pour toi, la sonorisation de l'arbitrage, est-ce que ce serait une solution d'apaisement pour le football français?
Alors, qu'est-ce qu'on entend par sonorisation? Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être sur un effet d'annonce comme un peu la vidéo qui allait tout résoudre. Et là, la sonorisation, on a l'impression que ça va résoudre tout. Si c'est pour faire du spectacle, pour écouter des conversations arbitre-joueur, moi, ce qui m'intéresse vraiment, par exemple, tu vois, c'est quand la VAR discute avec l'arbitre, quand ils prennent une décision pour un point de règlement ou une interprétation qu'ils ont, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi quel raisonnement intellectuel a amené à une décision. Après, savoir que l'arbitre demande un soin pour tel ou tel joueur, honnêtement, ça m'intéresse pas. Après, effectivement, on va se rendre compte que les joueurs sont insupportables envers l'arbitre, qui lui mettent une pression de malade, mais ça, quelque part, on le sait. Hein. C'est juste
on
le mettra vraiment en lumière et peut-être que ça va modérer aussi le comportement de certains et d'ailleurs aussi du côté des arbitres. Mais moi, ce que l'angle qui m'intéresserait, c'est vraiment de comprendre des décisions dans le côté aussi application du règlement. Et il y a sûrement des points de règlement qu'on maîtrise pas quand même à la loupe comme les arbitres eux le font. Donc c'est ce point-là qui peut pour moi être intéressant.
Greg, je te donne la parole sur le sujet du débat.
Ouais, bah moi je suis absolument contre. Alors pourquoi je suis absolument contre? Parce que je trouve qu'il y a déjà trop de technologie dans le foot, qu'il faut que les stades y vivent. Alors effectivement, il y a une vraie différence entre ce que Guillaume dit est très intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle sonorisation. Mais moi, si l'idée c'est d'avoir toutes les décisions arbitrales en direct du stade, sur écran géant, avec les discussions.
Un peu comme le foot américain, quoi.
Un peu comme le foot américain qui tue l'ambiance des stades parce que tout le monde devient trop spectateur, un peu comme on devient tous un peu spectateur après un but aujourd'hui, savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il y a but, est-ce qu'il n'y a pas but. Le foot, c'est une émotion, c'est une adrénaline. Et j'avoue que moi, tout savoir, ça ne m'intéresse pas. Par contre, sur des décisions aussi importantes que, par exemple, sur une action de but, et qu'une décision est par exemple, invalidée, que l'arbitre puisse s'exprimer, pas forcément devant tout le stade, mais au moins que les téléspectateurs et donc les gens, quand ils rentrent chez eux après, puissent avoir une explication claire, ça faciliterait évidemment le dialogue général. Mais le tout technologique tout le temps, avec trop de vidéos, trop de sons, et à un moment donné, un stade, sa vie avec ses erreurs, avec ses questionnements. Et moi, je fais très attention à ça parce que je n'ai pas non plus envie que les stades se transforment fatalement en des salles de spectacle. Voilà.
On va voir l'avis de Saïd Njimi hein, dans un instant. Mais d'abord, je finis avec Antoine. Ça se voit notamment au rugby, hein, lors des matchs de top 14, des matchs internationaux. L'arbitre est équipé d'un micro et on entend au fur et à mesure du match ces discussions avec les joueurs, mais également quand il explique les fautes. Est-ce que un style comme ça, Antoine, ou autre chose, toi, ça t'intéresse? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut pour apaiser certaines tensions?
Oui, bah, je pense que je reprends les arguments de Guillaume et Greg. Déjà, je pense qu'il faut surtout pas qu'on assiste en fait à une mise en spectacle et des explications dans un stade, parce que déjà que je pense que la VAR a un petit peu saccadé par moment des effusions de joie dans un stade, parce qu'il y a toujours un temps d'attente de validation. Si là en plus à chaque faute le stade se tait pour écouter une explication sur haut-parleur d'un arbitre, en fait on va arriver à des stades où on va plus être observateur et on va être dans une analyse ou une attente froide de ce qui se passe sur le terrain plutôt que de se laisser embarquer par justement ce mouvement perpétuel qui est le football. Par contre, le fait qu'on puisse entendre les arbitres à la télé, je pense que ça peut aussi servir de manière indirecte à la compréhension du match pour les gens qui sont dans le stade.
Selon vous, est-ce que la sonorisation de l'arbitrage est une des solutions à l'apaisement en fonction des arguments de nos chroniqueurs et de votre avis à vous?
Alors, d'abord, je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut vivre avec son époque. Les points positifs, c'est qu'effectivement, comme le disait Guillaume, ça va permettre d'avoir des explications techniques précises sur des phases de jeu qui, aujourd'hui, sont difficilement compréhensibles. Dixit, celle qu'on a évoquée sur la fameuse faute de main, et au moins entendre ce que tout le monde a envie d'entendre, c'est-à-dire malheureusement, on n'a pas vu. Enfin, ça, je pense que derrière, si vous voulez, ça va éviter le contexte qu'on a connu, parce que voilà, c'est dit, on passe à autre chose. Et puis, les côtés négatifs, vous le connaissez comme moi, c'est une nouvelle forme de théâtralisation, une nouvelle forme de comment dirais-je, d'amélioration matérielle et financière recherchée, qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport et le foot en lui-même, et effectivement, des polémiques dures et sévères qui vont certainement faire beaucoup de mal à certains joueurs, et peut-être aussi faire beaucoup de mal à certains joueurs. Est-ce que le prix à payer, c'est de faire du mal à un joueur qui malheureusement va lâcher une parole difficile et qui va être reprise en boucle par tous les médias, ou un arbitre inacceptable et inaccepté compte tenu de sa fonction? C'est encore pire, j'ai envie de dire, et qui malheureusement va certainement se faire sortir. Est-ce que le prix à payer pour avoir un peu plus de théâtralisation, c'est celui-là? Bon, payons-le. Mais je trouve qu'au global, on aura quelques explications, mais vous verrez qu'on aura surtout des choses difficiles qui vont faire le plaisir de certains médias, qui vont s'en régaler. Et ça va faire monter la température, malheureusement, alors qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'apaisement, mais bon, je suis peut-être un peu trop naïf pour espérer que les gens puissent se parler et puissent honnêtement dire ce qui s'est passé, tout simplement, et l'expliquer aux hommes de terrain, ou aux femmes de terrain d'ailleurs, directement, directement, et ensuite d'être honnête vis-à-vis des médias immédiatement après, pour que le média puisse retranscrire les choses. Qu'est-ce qui va rester demain aux médias si tout est dit sur le terrain?
C'est vrai. Ouais, non, mais on est d'accord.
Jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien eux qui mettent les centaines de millions sur la table. Il va falloir s'interroger sur les après-matchs, sur ce qu'on va pouvoir se dire, sauf, encore une fois, vous le verrez, à polémiquer et à repolémiquer et à repolémiquer sur une phrase. Souvenez-vous de l'écoute qui avait été faite sur un joueur du PSG. On a parlé de quoi?
On a parlé que ça. Oui, je suis d'accord avec vous.
Et du mot de travers.
Oui, tout à fait.
On n'a pas parlé d'autre chose.
Peut-être que si justement, entre guillemets, les médias sont coupés de ces suppositions et des fois ces scandales qu'on envoie parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur le terrain, peut-être que dans un sens, ça obligera les médias à parler d'autre chose et à parler de jeu. Et peut-être que on le voit aujourd'hui, Amazon Prime essaye de faire la part belle au jeu après match et parle un peu moins des décisions arbitrales et un peu plus des contenus tactiques, etc. Peut-être qu'aussi de couper l'arbre sous le pied et de tuer dans l'œuf certaines polémiques basées des fois sur pas grand-chose, ça obligera les médias à aller
en plus. Je me souviens, moi, quand il y avait 4-4 sur un match ou 3-3, sur l'article ou sur les commentaires dans les médias, il n'y avait que du foot. Quand bien même j'avais oublié un pénalty ou j'avais fait ce que j'avais voulu de mal. À partir du moment où il y a 0-0 ou 1-0, vous verrez que le contexte arbitral prend une partie beaucoup plus importante du débat d'après-match. Pardon. Moi, je suis pour la sonorisation. Hein. Je l'ai dit et répété et je pense que c'est une bonne chose.
Merci beaucoup, Saïd Mbimi, et passez une belle soirée à tous. On se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Ciao. Merci. Salut à tous.